ceux qui me connaissent bien, vous serez peut-être choqués d'entendre que je ne suis pas quelqu'un de très routinier. Oui, hélas. C'est vrai. Alors que j'apprécie bien la valeur d'une bonne routine et je suis assez doué pour identifier des routines bénéfiques, de belles choses à mettre en place régulièrement dans sa vie. Et je trouve que justement la rentrée, c'est une bonne période pour mettre en place des routines. Qui a déjà mis en place une nouvelle routine pour la rentrée? Ah oui, quand même, Camille, un petit peu. Ok, peut-être les autres, vous êtes comme moi, un peu déçus, découragés. On abandonne, c'est plus possible. C'est vrai que même si je mets en place les bonnes routines, malheureusement, je reconnais que souvent, j'ai du mal à les tenir. Même les routines les plus utiles. Mais une routine que j'arrive à maintenir, et ceci depuis des années, c'est la routine hebdomadaire rattachée à notre vie d'église. Et il y en a parmi vous qui disent, ben Nico, attends, c'est ton métier, t'es un pasteur, tu n'as pas le choix, il faut que tu viennes. Et c'est vrai. Mais même avant de prendre la casquette de pasteur et même avant de démarrer un travail de missionnaire avec ma famille, on était routinier en ce qui concernait notre vie d'église. C'était une priorité pour chaque semaine de nos vies. Mais je dois avouer que je n'étais pas toujours au clair sur la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi donnerais-je au rassemblement de dimanche une place prioritaire dans le programme de ma semaine quand il y a tellement d'autres belles choses à faire dans la vie? Et voici la question que j'aimerais qu'on se pose tous aujourd'hui. À quoi ça sert, cette routine hebdomadaire? À quoi ça sert? Je reconnais que parfois, je peux me mettre en pilote automatique. Peut-être c'est le cas pour vous aussi. Je viens à l'église le dimanche après-midi. Je salue les gens. On commence le culte. On chante. On prie. On fait quelques annonces. Il y a une prédication. Peut-être c'est moi qui prêche. On prie après, on chante, on conclut, on discute un peu après, et c'est fini. C'est un peu ça la routine, n'est-ce pas? Vous connaissez très très bien comment ça fonctionne. Et on fait ça dimanche après dimanche, comme des ouvriers dans une usine qui pointe leur feuille de pointage. Ça vous parle? Vous savez ce que c'est? Je pense que... Ah, j'ai pas les photos derrière moi. Normalement, il y a de belles photos. Je pense que ça galère avec les diapos. Ouais, c'est ça, en fait. Sans se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Et qu'est-ce que ça change dans ma vie, ce rituel religieux qui se répète semaine après semaine, mois après mois, et peut-être année après année pour certains d'entre nous? Qu'est-ce que cette routine contribue à ma vie? Qu'est-ce qu'elle change dans ma famille ou, je ne sais pas, dans mon quartier, dans ma ville? Quel rôle est-ce qu'elle joue dans le grand projet de Dieu pour le salut d'un monde déchu? Et qu'est-ce qui me motive encore et encore à accorder à cette routine une place privilégiée dans mon planning de la semaine? Donc voilà quelques questions conductrices pour notre temps ensemble. Et c'est vrai que je crois que la rentrée, c'est quand même une belle période pour se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je viens à l'église dimanche après dimanche? Je vais prier. Et puis, on va continuer la réflexion avec l'aide d'un verset biblique. Donc, prions. Ça suffit là. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui font tellement de bruit. Merci pour la joie de ces petites vies, ces trésors que tu nous confies. Merci pour les parents qui prennent soin d'eux. Merci pour tous ceux qui investissent, même actuellement, dans l'accompagnement de nos enfants, dans la découverte de toi, de ta vérité, de ton royaume. Merci pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Et merci pour ceux qui ne pouvaient pas venir et qui sont dans différents endroits, un peu partout dans le monde actuel. Nous prions ta bénédiction sur ces personnes, ces membres de notre Église aussi. Et je te demande maintenant, Seigneur, de nous donner des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole, à travers cet enseignement. Je te demande de nous aider à bien répondre à cette question. À quoi ça sert, cette routine hebdomadaire? Pour que cette année, on ait une motivation puissante pour faire du rassemblement de dimanche une priorité. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir au livre de 2 Corinthiens, chapitre 3. C'est la page 756 dans la Bible blanche. C'est juste un seul verset qui sera le point focal de ce temps, même si je vais faire référence à d'autres. Et c'est le verset 18. Donc 2 Corinthiens chapitre 3, 18. Je vais quand même lire quelques versets dans le contexte. Donc je vous invite quand même après la lecture à garder vos Bibles ouvertes à ce passage. Mais voici notre texte. L'apôtre Paul qui parle. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc une manière de répondre à la question, à quoi ça sert? Notre rassemblement hebdomadaire serait quelque chose de ce genre à la lumière de notre texte. Nous nous rassemblons chaque semaine pour contempler ensemble la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être transformés progressivement de gloire en gloire par son Esprit, à son image. Ça, c'est un peu beaucoup. En fait, beaucoup à dire d'un seul coup. Donc, je voulais simplifier un petit peu cette idée avec juste trois aspects de cette pensée. Donc, mon projet en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, c'est quoi? Eh bien, c'est de ressembler davantage à Jésus, mon Sauveur. Mais j'ai un problème. Et mon problème, c'est que j'ai du mal à faire ça tout seul. J'ai du mal à faire ça tout seul. Et donc, si je veux progresser, j'ai besoin d'aide. Et mon progrès va dépendre de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui me révèle progressivement la gloire de Jésus-Christ, grâce au moins en partie, à votre témoignage de la puissance de l'Évangile dans vos vies, semaine après semaine. Je vais juste redire cette pensée. Donc, mon progrès en Jésus-Christ dépend au moins en partie à l'œuvre de l'Esprit-Saint qui me révèle progressivement la gloire de Christ, grâce à votre témoignage de la puissance de l'Évangile qui agit dans vos vies, semaine après semaine. Pour faire encore plus simple que ça, j'ai besoin de voir avec l'aide de l'Esprit la gloire de Christ qui rayonne dans vos vies. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de voir avec l'aide de l'Esprit la gloire de Christ qui rayonne dans vos vies. Bon, je vais revenir à cette pensée, mais d'abord, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte pour qu'on comprenne un peu mieux où était Paul, dans quelle situation quand il écrit verset 18. Donc, nous avons dans nos Bibles, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, deux lettres que l'apôtre Paul écrit à une église qui se situe dans une grande ville qui s'appelle Corinthe. En fait, c'est deux de quatre lettres qu'il écrit, mais on a perdu les deux autres. Donc, on n'a que deux. Et là, on est dans la deuxième de ces deux lettres. Et le ministère de Paul, apparemment, est remis en question par un groupe de personnes d'influence dans l'église qui trouvent que Paul souffre trop pour être un vrai leader, pour être un vrai apôtre envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce groupe met l'accent sur les faiblesses de Paul, ainsi que sur toutes les épreuves qu'il a vécues. Il part de ces épreuves ouvertement dans ses lettres. De la maladie, l'emprisonnement, la torture, le naufrage et plein d'autres difficultés associées à son ministère itinérant. On peut trouver une belle liste de ces choses en chapitre 11 de 2 Corinthiens. Et les ennemis de Paul, les opposants, ont ciblé ces choses avec un certain nombre d'autres faiblesses en disant, lui, il n'est pas compétent pour faire le ministère de l'apôtre. Ce que je trouve intéressant en méditant la situation de Paul, c'est que les voix de ses ennemis ressemblent beaucoup à des voix qui me parlent parfois. Et peut-être c'est le cas pour vous aussi. Des voix qui nous disent, eh bien, quelqu'un comme toi ne peut pas rendre service à Dieu. T'es trop si ou pas assez ça. Quelqu'un comme toi n'a rien à apporter à l'Église de Jésus-Christ. Regarde toutes tes faiblesses. Regarde toutes tes difficultés, tes épreuves. Regarde l'état présent de tes projets. Non. Tais-toi. Assieds-toi et laisse la place aux grands, aux forts et à ceux qui sont plus compétents que toi. Et face à de telles voix, je trouve la réponse de Paul très intéressante et hyper encourageante. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il revient à l'essentiel de son ministère et il prêche l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit? Mes faiblesses, mes souffrances sont justement le moyen par lequel la gloire de Christ se révèle dans le monde. Le scandale de la croix, c'est justement que la gloire de Dieu se révèle non pas dans la puissance et la splendeur humaine, mais plutôt dans la faiblesse et l'humiliation de ceux qui, comme Jésus pendant sa vie terrestre, ne cachent pas la réalité rabaissante de leur humanité. Et en chapitre 12, verset 9, Paul se souvient d'un moment où le Seigneur lui a parlé directement apparemment concernant une épreuve, une difficulté que lui, il appelle son écharpe dans la chair. Vous vous souvenez peut-être de ce moment en 2 Corinthiens. Je ne sais pas ce que Paul vivait. Certains suggèrent que c'est une maladie. De toute façon, pour lui, c'est une situation interminable, presque invivable. Il a supplié le Seigneur 3 fois de l'arrêter, de le délivrer de cette situation. Est-ce que vous vous souvenez de comment le Seigneur a répondu à sa prière? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est une manière de résumer un aspect clé de l'Évangile, justement. Et c'est pourquoi, dit Paul en verset 10 de chapitre 12, « Je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est beau. C'est une belle vérité. Mais cette idée est tellement contre-culturelle, elle est tellement contre-nature que nous avons tendance à l'oublier semaine après semaine. Nous vivons dans un monde qui ne respecte pas du tout la faiblesse et qui cherche à éviter à tout prix la souffrance et l'épreuve. Un monde de super-héros et d'influenceurs qui sont toujours bien coiffés, bien habillés, bien musclés, même les filles, et qui savent quelle est la bonne chose à dire à tout moment. Et comme dit l'apôtre Paul, les lois qui régissent notre monde ont tendance à nous voiler les yeux en ce qui concerne la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, une gloire qui s'est manifestée de manière ultime, non pas dans une victoire militaire que tous les Juifs attendaient contre l'ennemi, mais sur une croix construite par l'ennemi, sur une défaite totale. Pas dans la force, mais dans la faiblesse. Bon, je dois avouer que j'avais beaucoup besoin de cette vérité cet été. C'était pas un été facile pour moi sur le plan juste émotionnel, suite à une grande année aux États-Unis. Il y avait des voix qui me parlaient à diverses moment, comme j'ai suggéré tout à l'heure, mais là, je serai même encore un peu plus précis. Ben Nico, t'es pas assez organisé. Justement, t'es pas assez routinier. T'es pas assez rigoureux pour avoir ce ministère que tu as. Ta fondement théologique n'est pas assez solide. Tu manques de courage dans ton témoignage auprès de tes voisins. Ta vie de prière manque souvent de peps. Et ainsi de suite. Et par moment, c'était plutôt notre Église qui était visée par ces voix. Eh bien, regarde toutes les personnes qui sont parties ou qui sont en train de partir. Bon, Nathan, tu vas nous manquer, mon frère, mais tu pars. Et il y a des voix qui disent, ben regarde, l'Église ne grandit pas, au moins sur le plan numérique. Les membres ont de meilleures choses à faire le dimanche, très souvent. Et s'ils viennent, c'est peut-être juste parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Bon, c'est juste des voix qui me parlent, hein. Je ne dis pas que c'est vrai. Bon, je vous invite dans la tête d'un pasteur. Très peu de personnes invitent les gens de leurs entourages. Au moins, c'est l'impression que j'ai. Et les invités qui viennent, pour la plupart, ne reviennent pas. Pourquoi? Surtout quand c'est moi principalement qui prêche. Ça fait poser des questions. Notre projet de quartier n'avance pas. Il y a très peu d'énergie investie dans des relations avec les voisins et dans les activités de proximité. Est-ce qu'on est en train de juste perdre notre temps là? Je ne sais pas si vous avez des pensées comme ça, des voix qui vous parlent en rapport avec peut-être votre propre ministère, votre propre engagement, peut-être juste votre propre vie chrétienne. Une question se pose, mais que fait-on face à de telles attaques, peut-être accusations, qui visent nos faiblesses et nos fragilités? Et là, j'aimerais m'appuyer de nouveau sur la pensée de Paul et je vais juste un petit peu plus loin dans notre texte. Là, je suis en chapitre 4 et je reprends la lecture au verset 3. Si vous voulez suivre avec moi, ce ne sera pas affiché parce que c'est un peu plus long. C'est Paul qui parle encore de son évangile. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Autrement dit, nous nous mettons en bas, nous, les apôtres. Pas en haut. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Parce que lui-même, il était un serviteur. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et je termine avec le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Les amis, quand nous nous rassemblons entre frères et sœurs en Christ, c'est un rassemblement, non pas de super-héros, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça commence avec moi-même. Non pas de piliers en béton, c'est un rassemblement de vases de terre. C'est justement pas très impressionnant. Il y a beaucoup de fragilité ici, y compris dans ma propre vie. Et tout au long de la semaine, des mains invisibles cherchent à nous voiler les yeux, à nous aveugler comme des incrédules, comme des non-croyants, pour que nous ne voyions pas l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Pour qu'on ne voit que la fragilité, que la faiblesse, que l'humanité, qui n'est pas du tout impressionnant. Ce que je vois dans le miroir le matin, bon, je vieillis là maintenant les amis, a tendance à me déprimer plus qu'autre chose. Il y en a qui peuvent s'identifier à moi dans cette pièce, mais pas beaucoup. Et je n'ai pas envie que les autres voient ce visage-là. cette réalité-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi le cas pour Moïse. Dans les versets qui précèdent notre texte, Paul décrit un Moïse qui mettait un voile sur le visage. Il y a certains jours où j'ai envie de faire ça pareil. Il mettait un voile sur le visage après ses rencontres avec Dieu. Qu'est-ce qui se passait quand Moïse rencontrait Dieu? C'était quoi le résultat? Il sortait de la tente de rencontre et son visage brillait de la lumière de Dieu. Mais il y avait un petit problème. C'était quoi le problème? Eh bien, la lumière ne durait pas longtemps. Et afin que la communauté ne voit pas le visage normal, humain, terrestre, fragile de Moïse, le grand leader, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il mettait un voile pour qu'on ne voit pas. Pour qu'on imagine que derrière ce voile, il y avait toujours cet éclat de lumière, le reflet de la gloire de Dieu. Mais Paul dit en chapitre 3, verset 3, que ce n'est pas comme ça pour nous. En tant que chrétiens, nous ne portons pas de voile pour couvrir la réalité de notre humanité. Au contraire, c'est justement notre faiblesse, c'est notre humanité, c'est la réalité que nous sommes faits de la terre, que nous ne sommes que poussière, c'est répété à beaucoup de reprises dans les Écritures. C'est cette réalité-là qui fait éclater la lumière de la grâce de Dieu et de la gloire de Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est extraordinaire, parce que ce qu'il y a dans ma vie qui a le plus de potentiel de faire éclater la lumière de Dieu, justement ma fragilité, c'est ce que j'ai le plus envie de cacher et de couvrir. Peut-être que vous vous posez la question, ok Nico, c'est intéressant tout ça, mais quel est le rapport avec notre question de base? À quoi ça sert notre routine hebdomadaire? Eh bien, c'est vrai que chaque semaine, diverses influences me poussent à me voiler et parfois je cède à cette pression-là. À me faire passer pour quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, de plus beau, de plus doué, de plus spirituel peut-être que je ne suis vraiment. Diverses voix me remplissent la tête et cherchent à justement noyer la voix douce de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, celui qui est là pour me rappeler des grandes vérités de l'Évangile. L'Esprit veut me dire, Nico, t'inquiète pas, quand tu es faible, et bien justement en Christ, tu es fort. Donc n'aie pas peur de ta faiblesse. N'aie pas peur de ta fragilité. Et bien justement, cette voix que j'ai tellement besoin d'entendre tous les jours, il y a énormément d'autres voix qui ont tendance à noyer, submerger cette voix pour que je l'entende plus. J'oublie trop rapidement cette vérité au cours de ma semaine. Le rassemblement alors, c'est l'occasion pour moi de me retrouver avec tes frères et sœurs en Christ, sans voile. Des frères et sœurs qui osent se présenter comme ils sont vraiment, qui parlent honnêtement des hauts et des bas, des moments de victoire et des moments de défaite, qui ne cachent pas la réalité de leurs besoins de la grâce de Dieu pour survivre tous les jours. Et qui apprécie le fait que cette grâce leur est souvent transmise par moyen de l'amour concret d'un frère ou d'une sœur. On a besoin les uns des autres. Et donc le temps que je passe avec de tels frères et sœurs, semaine après semaine, dimanche après dimanche, m'aide à progresser dans ma capacité d'enlever le voile, de reconnaître la gloire de Christ qui se manifeste justement dans mon vrai visage. Dans la faiblesse humaine, de célébrer cette gloire par des chants et dans les prières, et puis de témoigner de cette gloire quand elle se manifeste dans ma propre vie. Si la routine hebdomadaire n'est que chanter quelques chants, prier quelques prières, écouter une prédication, qui est plus ou moins intéressant d'une semaine à l'autre. Puis discuter un peu ensemble de tout et rien avant de partir, manger un petit bout. Il y a de meilleures choses que nous pouvons faire avec notre démarche, les amis. Dimanche, les amis. Il y a de meilleures choses. Mais si notre rassemblement, c'est s'encourager mutuellement à enlever le voile, à contempler ensemble la gloire de Christ, à se laisser transformer progressivement, de gloire en gloire, par la puissance de son esprit, à laisser briller dans nos vies l'éclat que projette son évangile, alors là, moi, je mettrai le paquet pour donner priorité à cette routine dans mon programme hebdomadaire et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Bon, comment faire? Et c'est avec ça que je conclue ce temps. C'est vrai que la semaine prochaine, Aurélien va introduire notre série principale pour l'automne. Et un des objectifs de cette série dans les 12 premiers chapitres de l'évangile de Jean sera de nous encourager et aussi de nous équiper à vivre ensemble la dynamique de 2 Corinthiens 3, 18. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons contempler sa gloire et nous voulons s'encourager mutuellement à briller à travers notre humanité faiblesse de sa lumière. Et l'évangile de Jean va nous aider avec tout ça. Et donc, je vous encourage à profiter au maximum de cette série dans l'évangile de Jean, les amis. Et voici quelques suggestions concrètes pour justement vous aider avec cela. D'abord, je voulais juste vous présenter un petit bouquin que je viens de terminer ce matin, en fait, que je lisais, que je lis depuis le début du mois d'août. C'est le livre d'un homme qui s'appelle Roy Hessian. Il y en a qui connaissent Roy Hessian pour un autre livre qui s'appelle Le chemin du calvaire. Qui a lu ce livre ici? Bon, il y en a plusieurs. Un livre excellent. Ça, c'est un autre livre du même écrivain qui est, c'est vraiment l'évangile, en fait, mais c'est une méditation sur un certain nombre de textes dans l'évangile de Jean en lien avec la personne de Jésus-Christ. Et le titre, c'est « Oui, nous voudrions voir Jésus ». Je l'ai utilisé pour accompagner mon petit culte personnel le matin. Parfois, je lisais juste une partie d'un chapitre, parfois un chapitre en entier avec le texte que je lisais dans la Bible et puis un petit moment de prière. Et je trouvais que c'était vraiment une aide énorme pour m'aider à fixer mes regards sur Jésus et me souvenir du fait que c'est justement le fait de contempler sa gloire. Et ceci souvent avec l'aide de mes frères et sœurs autour de moi. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. C'est la vision de Jésus-Christ qui va me transformer. Donc, une chose, serait de prendre un exemplaire de ce petit bouquin. C'est juste 7 euros, hein. Donc, ça coûte pas cher. Et je vous encourage juste à prendre peut-être quelques petites notes. Avec chaque chapitre, il y aura certainement une ou deux vérités qui vont vous marquer. Je vous encourage à garder une trace écrite de ces vérités, ces idées, peut-être un texte biblique dans l'évangile de Jean notamment, qu'il a traité, qui vous donne un autre regard sur un passage plutôt connu. Et je vous encourage avec ces petites traces écrites à nourrir les échanges les uns avec les autres, en fait. Qu'est-ce que tu as appris cette semaine dans ce petit bouquin? Oui, nous voudrions voir Jésus et ça peut accompagner notre série dans l'évangile de Jean. Deuxième suggestion, je vous encourage à prier régulièrement pour notre assemblée sur la base de 2 Corinthiens 3, 18. Moi, en fait, une idée que j'avais en tête ce matin, c'était juste de mettre ce verset sur une petite carte Bristol que je vais scotcher à mon bureau. Je pense que dans quelques semaines, et après, je passerai à notre prière, mais où je vais me souvenir de ce beau texte et du fait que ça, c'est un des grands objectifs de notre rassemblement. Et je vais prier, justement, que cette vérité, cette réalité se réalise. Et je vous invite à faire pareil, à vous servir de ce passage comme base de vos prières pour notre assemblée. Troisième suggestion, c'est de venir au culte, prêt à prendre des notes sur le temps d'enseignement. Je sais que certains font ça déjà, mais en fait, l'aide de la prise de notes, c'est déjà, ça nous aide à nous concentrer. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je suis sûr que c'est le cas pour certains d'entre vous. Mais moi, mon cerveau a tendance à partir dans beaucoup de sens différents. Et quand je prends des notes, ça m'aide quand ça m'arrive de, oh, il y a une idée que le prédicateur dit et hop, je pars sur quelque chose en lien. Et quelques instants plus tard, je reviens, je suis perdu. Mes notes m'aident juste à m'ancrer et à revenir, à me souvenir. Ah ouais, on est là. L'autre chose, c'est que mes notes m'aident à être équipé pour des discussions plus tard. On arrive à table et on discute le soir avec la famille. Et si j'ai mes notes, on peut parler. Oh là là, ça ne va pas là derrière. Oh. Ah oui, c'est Pauline qui veut maman. Oh, c'est la grande souffrance là derrière. Donc ça nous aide justement à voir de quoi discuter par la suite. Plutôt que juste quelques notions un peu vagues de ce que j'ai entendu, là, j'ai des points précis qu'on peut revisiter et réfléchir ensemble. Et puis aussi, si je me réunis avec d'autres membres de l'Église en semaine, pareil, j'ai ce point de référence pour discuter. Une quatrième suggestion, c'est justement d'inviter d'autres personnes, notamment dans vos échanges avec les frères et sœurs dans l'Église, à témoigner de ce qu'ils voient de la gloire de Jésus-Christ dans leur vie. Et j'aimerais bien que ce soit quelque chose qu'on vit habituellement. On se pose la question, qu'est-ce que tu vois du Seigneur? Qu'est-ce que tu as vécu avec lui cette semaine? Peut-être même dans ta faiblesse et ta fragilité. Qu'est-ce que tu peux me raconter de ta vie avec Jésus qui peut m'encourager? Et puis une cinquième qui va avec ça, c'est justement me préparer personnellement, se préparer soi-même pour pouvoir témoigner de son expérience. J'aimerais qu'on soit une église qui démarre sa semaine dans une attente de voir Jésus à l'œuvre dans nos vies. Et quand on le voit, qu'on prenne note pour qu'on soit prêt quand un frère, une sœur nous pose la question, qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur cette semaine? Ah, il faut que je te raconte. Voilà.